y a chez les hommes quelque chose qui profondément les pousse à aller plus loin, plus haut, plus vite. Et c'est incontestablement le moteur du progrès. C'est très important.
Et ce n'est pas à un psychiatre de dire si on est un homme ou une femme ou entre les deux.
Assez, c'est assez, la paix sociale est terminée.
Langue de fronde.
Langue de fronde.
Langue de fronde. Une émission féministe, meuf, gouine, trans.
Langue de fronde.
Langue. Langue de fronde.
Soy mujer, soy MC, soy quien soy, aquí estoy. Alístense grafiteros, MC, DJ, B-Boy, que hoy verán como hip hop hay que hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, flow, talento y líricas crudas. La mujer es destreza, valentía y rudeza. ¿Quién dijo que la mujer...
Bonjour, vous êtes bien sûr. Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, sur l'émission Langue de Fronde, l'émission féministe de FPP. Alors en studio aujourd'hui, on est avec Olga.
Bonsoir.
Théo.
Salut.
En régie, c'est-à-dire en technique, on est avec Maïk.
Qui nous dit pas bonjour parce qu'elle a l'air très occupée. Et Cla aussi, qui est en technique. Et Léa qui vient d'arriver. Et Elsa, qu'on attendait depuis des mois et des mois.
Voilà, donc on est extrêmement contente de vous retrouver pour cette émission qui s'appelle « Le bien-être est politique ».
Merci Céline, c'est Céline qui vous parle là, avec sa belle voix.
Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à comment fait-on pour être heureuse et heureux dans cette société pourrie. Voilà, en plein état d'urgence, nous souhaitons vous donner quelques outils, en tout cas les nôtres. Nous allons faire une émission un petit peu plus personnelle, puisqu'aujourd'hui, les invités, eh bien, c'est nous-mêmes. On va vous parler de ce qui nous rend vivantes, de ce qui d'habitude n'est pas important, c'est-à-dire nos corps, nos émotions. Et ça va donner lieu à quelques outils. Donc notre guide pour cette émission, c'est de laisser la place à l'expérience brute. Voilà, ce qui éveille nos sens. Donc on parlera de pratiques corporelles, de pratiques qui lient à la fois le corps et l'esprit, et de ce qui nous rend vivants et vivantes ensemble.
Et donc voilà, on voulait quand même rappeler que qui c'est nous, donc on est un collectif de meufs et on est toutes blanches, donc voilà, on est consciente de, on va vous parler de ce qui nous fait du bien, mais on est bien consciente aussi que on parle d'une position quand même assez favorisée, on n'est pas à la rue, on a quand même des tafs un peu précaires ou pas de taf du tout, mais bon, on est quand même, ça va, on n'est pas parmi les plus à plaindre. Et voilà, donc il y a des personnes, on est bien consciente qu'il y a des personnes qui sont dans des états de précarité bien plus grandes, mais qu'on pensait que c'était quand même important de parler, enfin, que c'était important de trouver des outils pour faire face à nos propres détresses et émotions dans ce monde qui est assez brutal, surtout en ce moment, donc comme l'a dit, avec l'état d'urgence, avec aussi les mouvements de réfugiés, enfin, voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire, et on va bientôt commencer par une petite clochette. Voilà, qui nous fait passer à la suite, où on va faire une petite interview de Céline, parce que elle voulait nous parler en fait de son expérience qu'elle a eue il y a ces derniers mois en fait. Elle a voilà, donc on va, donc c'était une expérience de méditation, et voilà, on va entamer l'interview. Alors Céline, donc juste tu nous fais un petit point sur qu'est-ce qui t'a mené à faire cette expérience de méditation.
Ok, bah du coup, la méditation, c'est venu avec la pleine conscience. Donc la pleine conscience, c'est la version laïcisée de la méditation. C'est issu de la rencontre entre des scientifiques, neurosciences et des bouddhistes. Des bouddhistes, des lamas, voilà, qui ont fondé une institut aux États-Unis dans les années 80. La bibliothécaire de mon enfance m'avait parlé d'un livre qui s'appelle « Méditer pour ne plus déprimer ». Que j'avais acheté vers 16-17 ans. J'avais pu tester un CD où il y avait une pratique qui s'appelle le scan du corps, où en fait on sent toutes les parties de son corps. C'est pas on pense aux parties de son corps, mais on les sent. Du coup, j'avais vu que ça m'avait bien plu. Et là, donc pour me resituer un petit peu, je suis sage-femme, je fais un master socio en même temps. Ça, c'était ce qui m'a occupé les 4 dernières années. Et j'en étais arrivée, je suis vraiment allée au bout de ce que je pouvais pour ce mémoire de master qui s'occupait de l'accouchement à domicile, donc un sujet qui me tenait à cœur, qui avait aussi un lien avec mon travail. Donc je ne pratique pas les accouchements à domicile, mais ça me permettait d'avoir une réflexion dessus. Donc j'étais tout le temps dans le monde des idées et par exemple le soir, j'arrivais pas à m'endormir, mon cerveau tournait et du coup j'ai mis ce CD et ça m'a permis de me réendormir. Entre-temps, une naturopathe au cabinet dans lequel je bossais, un cabinet un peu alternatif où justement il y a des sages-femmes qui font de l'accouchement à domicile, m'a parlé d'un endroit qui s'appelle Karmaling, à 50 km de Grenoble. C'est un endroit où on peut faire des retraites, c'est un monastère bouddhiste fondé par une petite communauté, je pense dans les années 70-80. Et c'est un ancien monastère retapé, très beau. Et lorsque j'ai entendu parler de cet endroit, je m'étais dit que c'était là où il fallait que j'aille parce que je me sentais fatiguée et que c'était bizarre à 28 ans d'être si fatiguée.
Il s'était passé quelque chose pour que tu te sentes spécialement fatiguée ou c'était juste un ras-le-bol général
Genre ma vie normale, quoi. Je fais un master, je fais mon taf de sage-femme avec ses difficultés. Et puis voilà, je me sentais vraiment au bout, quoi. Je suis vraiment allée au bout de ce que je pouvais pour ce travail. Ouais. Voilà, je pense que dans la vie, on a besoin de tester ses limites. Et moi, c'était sur ce master que je me suis testée, quoi.
Alors, comment ça s'est passé dans ce monastère? Tu peux nous raconter une journée lambda ouais. Au moment où tu te réveilles?
Alors, je dormais dans un endroit de 4 personnes, donc c'était non mixte. C'était avec des personnes, donc des femmes, qui de différents âges. Du coup, ça a donné lieu à des discussions plutôt intéressantes. Donc quand vous avez un dortoir, il faut essayer de bien avoir celui où, où personne ronfle. Mais bon, j'avais mes boules-caisses, donc c'était pas très grave. Le matin, donc on se lève. Moi, j'avais la montagne face à moi avec les arbres de 1000 couleurs. On descend petit déjeuner et puis après, tranquillement, on va au grand temple pour la méditation. Donc c'est vraiment quelque chose où on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire si on n'a pas envie de venir, on vient pas. Voilà, l'endroit est de toute manière paisible pour celles et ceux qui veulent y rester.
Et une méditation, ça consiste en quoi exactement?
Ouais. Alors, la méditation, on se fait souvent un plat de ce que c'est, mais c'est pas grand-chose. Donc là, comme c'est dans le grand temple, on prend un coussin, on s'assoit dessus. Donc certaines d'entre vous ont peut-être essayé la position tailleur. C'est pas une position facile à tenir pour tout le monde. Donc l'idée, c'est de bien s'installer, d'avoir un petit coussin qui vous rehausse les fesses pour que vos hanches soient à peu près au même niveau que vos genoux, ou un petit peu plus haute en tout cas, et d'avoir le dos bien droit. Sachant qu'une méditation, ça peut se faire très bien assis. Mais bon, là, j'étais dans le thème, dans le move, alors je voulais vraiment tester la position tailleur.
Qu'est-ce que tu fais pendant cette méditation? Donc, tu es assise?
Voilà, assise, le dos droit. Et puis, l'idée, c'est qu'on est souvent dans l'après, dans le passé. Donc, dans l'après, dans ce qu'on va faire après, dans le mode faire. On est souvent aussi dans le passé, c'est-à-dire les regrets, les choses comme ça, où on ressasse des choses, ça tournicote dans la tête. Et là, en fait, on va être dans l'instant présent avec son corps. C'est vraiment le corps qui va nous aider à profiter cet instant présent, à le préserver. Donc, j'utilisais mon corps assise, simplement je respirais. Voilà. Respirer. Et donc, pendant ce temps-là, il y a des pensées qui arrivent dans l'esprit, c'est-à-dire, il faut que j'envoie un SMS à machin, il faut que je travaille, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et l'idée là, c'est de savoir que ces pensées sont là, de dire elles sont là, ok, mais de les laisser passer. Et je pense que ça a été un des trucs les plus cools que j'ai découvert, c'est que ces pensées, je n'étais pas obligée de rentrer dedans, je n'étais pas obligée de les prendre au sérieux, c'est-à-dire que je n'étais pas obligée de me prendre au sérieux. je pouvais les laisser passer pendant cette méditation. Et donc, un exercice peut être de compter ses pensées, et au bout de 10 fois, vous arrêtez de compter parce que vous vous rendez compte que vous pensez tout le temps. Et dès qu'on a cette conscience du fait qu'on pense et qu'on peut très bien les laisser passer, eh bien, c'est extrêmement libérateur. Par contre, c'est un exercice difficile. Un lama m'a conseillé de le faire tous les... Donc, un lama, c'est quelqu'un qui a fait une retraite de 3 ans. Il m'a conseillé de le faire 20 minutes par jour. Et donc, il faut essayer de trouver le temps pour le faire et de s'accorder ce temps pour soi. Voilà.
Dans ta journée, donc, vous faites juste des périodes de 20 minutes de méditation ou vous, ouais, vous faites d'autres exercices ?
Donc, il y a des méditations assises et de 20 minutes et après des méditations où on marche. C'est-à-dire qu'on fait attention à la plante de ses pieds, on a conscience de sa respiration. On essaie de voir sans regarder, d'entendre sans écouter, et on marche, comme ça. Donc ça, c'est aussi des périodes de 20 minutes. Voilà, après cette marche, on refait une étape de méditation 20 minutes sur le coussin. Et puis après, c'est le déjeuner.
D'accord.
Sachant que l'après-midi, on refait pareil avec des phases de débrief, où on peut parler, par exemple, des difficultés. Moi, je sais que j'avais un petit peu de mal quand je méditais les yeux ouverts. Donc essayer de voir sans regarder, j'avais un peu de mal à le faire avec des gens devant moi parce que tout de suite j'essayais de voir ce qu'ils pensaient, ce qu'elles pensaient, qui ils étaient, etc. Et quand j'ai verbalisé ça, après c'était plus facile de me dire qu'ils faisaient partie de l'expérience ou elles faisaient partie de l'expérience. C'est comme les sons, on peut se dire non, il y a trop de bruit ici, je peux pas pouvoir méditer, mais non, en fait on peut méditer parce que l'idée c'est d'accueillir le son qu'il soit vu comme désagréable, enfin entendu comme désagréable ou agréable. Juste d'accepter qu'on est là, quoi.
D'accord. Donc, toute cette retraite, en fait, ça t'a donné aussi des outils pour, que t'as pu prendre...
Tout à fait. J'ai pu voir
à la maison.
J'ai pu voir les bénéfices de la méditation parce que j'ai travaillé tous les jours, quasiment. Voilà.
Ok, merci.
Et salut, moi, c'est Maïk. Je viens d'arriver dans le studio. Je voulais juste rajouter du coup un petit contrepoint rapide. On en avait parlé quand on avait préparé l'émission, dans le sens où voilà. Donc tu nous as parlé, Céline, de cette expérience de méditation. Et je pense que du coup, bon, évidemment, de toute façon, chacun, chacune fait, qu'il s'agit absolument pas d'être dans un truc de prescrire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire, etc. Mais moi, j'aurais juste tendance peut-être à proposer quand on s'inscrit dans ce genre de pratique, de garder en tête que de faire attention à la dynamique d'appropriation ou pas d'éléments culturels, enfin qui appartiennent pas à la culture occidentale. Et l'idée est pas de dire que chaque culture doit rester où elle est, évidemment, mais voilà, juste de garder vraiment en tête peut-être le phénomène général qu'il peut y avoir en Occident depuis 10, 20, 30 ans de un peu de fascination, exotisation pour le bouddhisme, et où en fait je pense que pour certaines personnes ça se résume quand même à prendre ce qui les intéresse de prendre. Et que ça peut, enfin voilà, que je pense que la culture bouddhiste ne se résume peut-être pas à la méditation pour se faire du bien. Et voilà, garder en tête à la fois le fait que ça s'inscrit dans une culture riche, beaucoup plus large et beaucoup plus complexe, et que c'est pas juste le zen et tout va bien, et que par ailleurs il y a ce phénomène vraiment en particulier sur le bouddhisme, voilà, qui a lieu en Europe, je sais pas pour les États-Unis, mais en tout cas qui a lieu en Europe depuis un moment, et voilà, de garder toujours un peu ce recul, de savoir où on se situe quand on se, voilà, individuellement quand on se lance dans ce type d'envie, de pratique, etc. Voilà, c'était.
Ouais, tout à fait.
Ok, ben on va continuer à vous parler du corps après une petite pause musicale de Björk, Vertebrae by Vertebrae.
intoxication to lose face. Got down on her knees. The beast is back. On four legs. Set her clock.
Vous êtes sur 106.3 FM et toujours avec les radios Langue de Fronde sur FPP. Donc, le bien-être est politique. Le corps. Comment se servir de lui? Comment le mettre beau? Comment le mettre pour une fois en lumière? Comment vous faire du bien avec votre corps? Comment est-ce que vous faites, vous, les filles, par exemple?
Grande question. Alors moi, mon corps... l'idée, c'est que jusque-là, on a parlé plutôt de la méditation.
Ouais.
Et que, par exemple, personnellement, j'en ai jamais fait. Et pourquoi pas un jour en faire. Mais pour l'instant, les petits trucs que j'avais trouvés, dont on a aussi parlé entre nous, parce qu'on s'est bien amusé entre nous à se raconter nos petits trucs, et on se disait déjà, commençons par nous faire des massages. Remettre le corps au centre, c'était aussi... parfois arrêter de parler, arrêter de se parler entre nous et juste...
Et on va arrêter l'émission et se faire
on arrête tout, on se fait les massages.
On a envie de se faire du bien et voilà, désolée. Bonne soirée. Bon, allez, j'arrête.
Non.
Et oui, remettre le corps un peu même au centre de nos relations, même amicales, enfin... Et voire professionnelles. Faire des siestes quand on est fatigué, ne pas oublier tout ça. Et après, il y avait aussi toute la question de qu'est-ce qu'on fait avec notre corps, dans le sens, souvent, ça paraît superficiel de comment on s'habille, mais en fait, que souvent, c'est aussi hyper important pour se sentir bien, quelles sont vos expériences là-dessus, mais...
De se parer.
Ouais, de se parer.
De se déguiser.
Mettre des paillettes.
Chaque jour un nouveau déguisement, chaque jour une nouvelle personnalité.
En fait, c'est pas forcément évident pour nous de parler paillettes, de parler rose, de parler jupe, de dire que c'est bien de faire attention à soi parce que dans nos milieux militants, c'est pas forcément évident de dire que, par exemple, on va s'épiler, ça va nous faire du bien. Et du coup, on avait un message, c'était de se dire d'arrêter aussi de se remettre des nouvelles normes, y compris dans nos milieux féministes, où une des nouvelles normes, ça pourrait être de jamais s'épiler. Mais parfois, ça arrive au bout de 3 ans d'avoir envie de s'épiler. Et
parfois, au bout de 10 ans, on s'épile.
Voilà, c'est important pour nous aussi de dire, bah voilà, on est certes dans des milieux féministes, on a conscience qu'il y a des oppressions sur nos corps. Par exemple, les poils, évidemment, c'est un contrôle sur les femmes. Il faut qu'elles soient douces, il faut qu'elles soient blanches, il faut qu'elles soient lisses. Mais on peut aussi prendre du plaisir, même en tant que féministe, à s'épiler. Et s'il y a bien un idéal de société qu'on veut avoir, c'est de pouvoir être heureux dans la différence, quoi.
Et on peut prendre du plaisir à épiler à teindre les poils en rose ou en bleu.
C'est ça. Et moi, je veux dire que j'adore les paillettes et le rose et tout ça. Enfin, aujourd'hui, c'est pas obvious, mais d'habitude, ça l'est. Et non, mais je pense que c'est vraiment important le moment où tu prends du temps, tu te prends un bon bain, tu kiffes, tu te reposes, t'essayes d'oublier le monde extérieur un tout petit peu parce que parfois, c'est juste trop. Et ensuite, tu te pars comme tu as envie dans différents styles, selon ton envie du moment, et juste tu te regardes dans la glace et tu te dis que tu as trop la classe et tu fais ça juste pour toi, quoi, et tu as le power. Non, mais voilà, c'est un truc qui fait du bien, quoi.
Voilà, on peut exister soi et avec les autres. Voilà.
Ouais. Alors, moi, je voulais vous parler d'une façon d'utiliser son corps peut-être un petit peu différente, qu'en y réfléchissant bien, bon, après, enfin, j'ai aussi ma part de... j'aime bien passer un peu de temps à m'habiller dans certaines occasions, mais j'avais aussi...
Pas trop, j'ai l'impression.
Merci, tu veux dire que je suis habillée vraiment mal, quoi.
Non, mais j'ai pas... Ça balance, là, il y a l'histoire des poils, c'est bon.
Donc, je voulais surtout vous parler, en fait, de... Enfin, que pour moi, c'était important dans un contexte qui a du sens. Donc, par exemple, quand je fais du jardinage, qui est enfin une pratique que je fais souvent, que c'était pas tellement le jardinage en entier qui me faisait du bien, mais que c'était dans ce contexte-là faire des tâches assez répétitives que je savais, enfin en tout cas que je maîtrisais. Et donc il y avait cette partie, par exemple quand on fait des semis en cagette, donc de bien mettre le terreau, de faire la petite ligne, de déposer les graines, c'est des choses qui prennent du temps, qui sont assez simples. C'est des tâches, c'est pas d'une grande technicité, mais juste c'est là, faut être minutieux et on le fait, et c'est reposant. Et même si on a beaucoup à faire, ça peut sembler un travail à la chaîne. En même temps, s'il y a du sens avant, du coup voilà, ça a ce côté très reposant, ce qui est d'ailleurs assez, enfin d'un côté assez paradoxal, parce que il y a une tension entre ce qui est la partie création, dans le sens, quand je parle de jardinage, donc qu'est-ce que je dois semer, comment est-ce qu'il faut que je le fasse, parce que par exemple je veux pas trop arracher d'adventices ou de mauvaises herbes, comme on les appelle, ou voilà, je dois limiter la population de limaces qui est en train de me ravager mes salades. Donc ça, il y a toute cette partie un peu tendue, en fait, qui est pas du tout agréable d'avoir à créer son jardin et à lui donner du sens. Et en même temps, s'ajoute à ça des parties beaucoup plus calmes et reposantes qu'on sait faire, qu'on sait que ça marche à peu près. Pas toujours, mais presque en tout cas. Et voilà, donc y avait cette tension qui était assez intéressante entre création et le connu de manière mécanique.
Oui, donc en fait, il y a aussi voir les applications concrètes de ce qu'on fait. Parce que parfois, quand on, dans une société, on fait quelque chose, mais on ne voit pas ce que ça va faire concrètement. Et il y a aussi peut-être l'idée de prendre son temps sur quelque chose, ralentir le rythme sur quelques activités. Parce que sinon, on était... Je me souviens de Léa qui disait, moi, je peux faire plein d'activités, enfin, je suis hyper sollicitée. Et moi, je me reconnaissais tout à fait là-dedans, dans se dire, je peux être hyper sollicitée. Et ben non, en fait, à un moment, je peux simplement ralentir le rythme, aller me promener en forêt.
L'idée, c'était que aussi de se rendre compte que le corps, finalement, il était mis en jeu toute la journée, en permanence. Mais que souvent, c'est un peu ce que tu disais, Théo, c'est-à-dire que c'est une façon de mettre en jeu son corps qu'on n'a pas vraiment choisi au moment où on le fait. Et qu'on oublie presque parce que, par exemple, dans le cas du jardinage, ce à quoi on pense, ça va plutôt être ne pas se faire défoncer par les limaces ou des choses comme ça. Et donc d'inverser la chose, c'est-à-dire maintenant, et souvent quand même, ça sort du travail, mais dans l'idéal, ça peut aussi être dans un cadre du travail, mais d'inverser la chose, c'est-à-dire de dire maintenant, j'engage mon corps, je veux faire quelque chose qui me fait du bien, et peu importe, advienne ce que pourra, On y va. Et par exemple, notre corps, il est bien évidemment aussi mis en jeu dans une heure ou deux heures de transport par jour, vu qu'on est en région parisienne, on se tape quasiment tout ça. Mais c'est autre chose que de rentrer chez soi ou d'aller au bout du RER pour justement, ce que tu disais Céline, se relaxer dans une forêt et crier si on veut, ou avoir plutôt ce genre de moment de liberté vraiment corporelle.
Et puis c'est sortir de trucs productifs, quoi, enfin devenir improductif, enfin, en fait avoir plein de moments qui servent à rien, enfin, ou qui servent juste à se faire du bien mais qui on produit rien.
Ouais.
Enfin moi juste il y a des moments j'ai besoin de regarder le plafond et bon, en fait il se passe plein de trucs à ces moments, mais voilà, c'est aussi il y a un moment ça, bah, on sort d'une certaine logique de productivité permanente.
Ouais,
qui est assez fait. Importante, quoi.
Puis bon, il y a aussi, on l'a un peu moins, enfin elle est peut-être plus évidente, en tout cas plus souvent, on en parle plus souvent, il y a aussi d'utiliser son corps comme faire du sport, quoi. C'est souvent se défouler, ça permet d'extérioriser en tout cas une partie de, ouais, du stress et
une de nous,
et de l'attention.
C'était dit, ben voilà, moi j'ai envie d'exprimer ma colère, donc la colère c'est souvent un sentiment qu'on refoule ou qui n'est pas... très bien de mettre en public, surtout pour des femmes, eh bien, certaines d'entre nous sont déjà allées crier dans la forêt, dans un cadre qu'elles aimaient bien, ou même ont montré des émotions, par exemple comme la tristesse, elles ont déjà pleuré en public. Et ça leur a aussi permis de voir bah, que les gens étaient touchés par ça, même avec simplement un mouchoir ou quelque chose comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça important d'exprimer ça, parce que voir la vulnérabilité de l'autre... c'est rassurant vis-à-vis de sa propre vulnérabilité. Et nous sommes, attention, c'est un scoop, des êtres vulnérables.
Et donc, on en est un peu dans les émotions. On voulait vous faire partager juste un court extrait sonore d'Arte Radio. Tu voulais, pardon, Clarisse, où justement on entend un peu le fait que les sons peuvent nous donner des émotions. Donc je voulais juste...
Voilà, donc c'est un son de Emma Brouton, l'auteur, et le mixage Samuel Hirsch. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de ce son sur arteradio.com. On les remercie d'ailleurs beaucoup de nous l'avoir prêté.
Un matin d'été, au magasin de chaussures Thiel de Boulogne-Billancourt. Année 1991. J'ai 7 ans. Je sors du magasin avec au pied une paire de chaussures en daim brun roux et je suis totalement paniquée. Je viens de mentir à ma mère. Ce n'est même pas que ça ne se fait pas de mentir à ses parents. Ça n'existe pas. C'est un type de comportement non répertorié. Les adultes sont nos amis. Sauf que l'adulte en question regardait les chaussures bizarrement.
Tu es sûre qu'elles te vont, Emma ? Elles sont pas trop petites.
Alors j'ai menti. Ces chaussures, il me les fallait. Parce que lorsque leurs semelles se posent sur le sol en lino bon marché de la boutique Thiel, elles font un son mat, propre. Et moi, je me fous du reste. Mes orteils broyés, ma démarche de chinoise du 19e, l'air suspicieux de ma mère. Ce qui est important, c'est que ce petit clapotement ne s'arrête jamais. Plus tard, j'ai 12 ans et je passe un été quelque part en Provence avec ma cousine. Comme tout préado cool et populaire qui se respecte, on joue au petit bac.
Calais.
Ouais.
Californie.
Et pas n'importe comment non plus.
Ce qui était très important, c'était la manière dont on écrivait sur les feuilles du petit bac.
Cacatoès.
On avait choisi évidemment avec beaucoup d'attention les bloc-notes avant. Oh putain, il est bien celui-là. Souvent, ce qui est mieux, c'est du papier recyclé ou du papier un peu plus fin que du papier normal, moins rigide. Ce papier, on le froissait d'abord. Et ensuite, on le défroissait. Et ensuite seulement, en ayant le bon stylo, on pouvait écrire dessus. Et là, ça fait un petit son, un bruit hyper particulier au moment où on écrit. Et c'était là, finalement, le plus grand intérêt du petit bac. Le moment où j'écris sur du papier froissé. Ça me procure une vraie sensation de relaxation, en fait, de petits frissons qui se passent. Et j'ai l'impression que je pourrais écrire pendant des jours et des jours, quoi.
À l'adolescence, j'ai l'intelligence d'arrêter de jouer au petit bac. Par contre, je mange souvent mes spaghettis froids. À force de les avoir touillés interminablement pour entendre ce petit son humide.
Bonjour, bonjour, vous êtes toujours sur 106.3 FM, fréquence Paris pluriel, dans l'émission Langue de Fronde. Vous avez écouté donc cette petite création sonore qu'on a malheureusement dû couper, allez l'écouter sur arteradio.com. Et l'idée de cette création, c'était pour nous en tout cas, la façon dont on l'a vécu, c'était de sensibiliser au son, à l'environnement sonore, et comme le dit le nom de la création, « Fais-moi ouïr », associer l'écoute à aussi une forme de jouissance et de réel plaisir qui engage aussi, encore une fois, le corps. Mmh. Et de faire attention aussi à ce sens-là que peut-être on met moins en avant, à part par la musique éventuellement, qu'on met moins en avant que la vue, par exemple. Et pour revenir sur aussi ce qui nous faisait kiffer notre corps et aussi comme... façon, on va dire, diverse et variée de le mettre en jeu. Le sport, on n'en a pas trop parlé. Alors, parfois, c'est un peu chiant, le sport, parce que c'est comme une injonction à être saine, productive, en forme, mais selon certains schémas. Mais par rapport à ce que tu disais, Céline, tout à l'heure, de la colère, je trouve qu'il y a des liens forts à faire dans l'expression de la colère par le sport, et notamment, moi je pensais à la boxe par exemple dans des contextes non mixtes, donc entre meufs, entre que ce soit ados ou adultes, mais une forme de jouissance aussi à pratiquer cette pratique corporelle, et à lâcher justement prise à des moments, que ce soit dans des petits exercices à deux ou dans des petits combats libres, mais que ce soit aussi... par exemple, seul face à un sac, si on est toutes en ligne avec chacune son sac, et de lâcher tout. Et que ça, alors là, moi, c'est plutôt dans un cadre, on va dire, dans un cours de boxe. Mais peut-être, Olga, il y a aussi d'autres contextes où cette idée de se lâcher contre quelque chose et avec toute la violence que ça représente.
Non, mais moi, je voulais continuer sur le sport... un tout petit peu, enfin voilà, j'ai besoin de faire un coming out là devant vous, enfin voire peut-être même une confession. Je suis cette semaine allée faire du jogging. c'était une expérience limite. Hein, on a parlé d'expérience limite tout à l'heure. Je promets de ne plus jamais me moquer des gens qui font du jogging comme je l'ai fait jusque là. Et je dois avouer que même si à la fin je n'avais plus de poumons après avoir couru pendant à peu près un quart d'heure. Et j'ai quand même bien aimé ça, et peut-être même que je recommencerai. Voilà, c'était le petit moment coming out du jogging.
Après le moment coming out du jogging, je voulais dire aussi que, d'ailleurs, que ce soit le jogging, c'est pareil, je pense, mais le sport, on peut l'utiliser aussi quand on est dans des situations de pédagogie, enfin de relations à d'autres. Quand on voit des personnes autour de nous qui pètent un plomb, par exemple, et qui, je sais pas si Olga, tu voulais parler de ça, mais
ouais, en fait, je pense qu'on a déjà parlé un peu des émotions tout à l'heure. En fait, il y a comme une injonction dans la société. Il y a les émotions qu'on peut avoir, celles qu'on peut pas avoir. Bon, dans tous les cas, faut pas qu'elles soient trop fortes, faut pas qu'elles dérangent trop, faut pas qu'elles s'expriment trop, ni trop en public. Il y a des espaces, etc. Et ce qui est un peu embêtant, parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On refoule ! Et c'est un petit peu emmerdant de refouler ses émotions, de pas les exprimer. Et notamment, du coup, des émotions comme la tristesse, la colère ou la peur, qui sont censées être des émotions négatives, mais qui viennent avec le package. Hein. Si on veut ressentir des trucs, faut aussi se coltiner celles-là. Et elles ont aussi un intérêt, donc oui, dans des situations pédagogiques,
je sais pas si c'est le mot, mais par exemple, quand, je sais pas, Clarisse, enfin, je pense que tu fais référence au fait que nous, on a travaillé ou on travaille parfois avec des jeunes, etc.
Ouais, avec des jeunes.
Et des jeunes, et qui parfois sont un peu vénères, et ils, elles ont bien raison. Et du coup, bah, en fait, au lieu d'essayer de les calmer, il y a des moments, il faudrait plutôt, je pense, créer des espaces pour que cette colère, elle puisse s'exprimer. Donc, tu vois, quand tu parles de boxe, enfin, bon, moi, j'ai pas de salle de boxe forcément à disposition, mais il y a des moments, quand j'ai des gamins ou gamines qui pètent des câbles, bah, je vais leur faire taper dans des coussins, hurler dans des coussins, mordre des coussins, des choses comme ça, plutôt qu'essayer de réprimer ces émotions qui sont, qui ont leur place, en fait, qui sont légitimes, quoi.
Carrément. Est-ce que tu, ça fait penser au fait qu'on puisse écrire aussi ces choses-là. Moi, j'ai, cette année, j'ai démarré un petit carnet. Et je me, c'est important pour moi parce que je me suis sentie légitime pour écrire mes émotions. Chose qu'avant, je m'étais dit que l'écrit n'était pas légitime pour moi et pour mes émotions. Donc, c'est aussi un des moyens d'expression qu'on a pu trouver. Voilà, je m'amuse beaucoup avec. Je dessine, je fais appel au non-verbal. Et puis sur la pochette, j'ai marqué année scolaire, celle que je veux, école de la vie, classe verte, et mon nom c'est Princesse. Voilà.
Oui.
Avec tout ça, on parle émotion, et on n'a pas encore parlé de sexe et de jouissance. Alors voilà, on voulait vous faire
sexe.
Et donc voilà, on voulait vous faire passer un petit extrait qu'on avait déjà fait passer dans une émission précédente, qui était la lubrique de Sarah, dans notre émission sur les super-héroïnes. Mais voilà, et on l'a trouvé tellement chouette qu'on avait envie de vous la faire écouter ou réécouter.
Cela se passe
sur l'éjaculation potentielle de la catégorie que la science moderne appelle femme, qui aurait des glandes dont il faudrait peut-être un nom. Je manque de sources sur le sujet, mais quand même, je voudrais en partager un peu du peu que je veux bien croire. À ce qu'il paraît, de sources éparses, il y a fort longtemps, existait la croyance que femme et homme, oui, en ce temps-là, c'était tout aussi binaire et hétéronormé, devaient éjaculer pour faire un enfant. Puis des mecs cis philosophes ont écrit des trucs comme « Les femmes qui ne jouissent pas ont quand même des enfants », ce qui réfuterait la logique précédente. Des siècles de religion, de philosophie ont ainsi amené à modifier certaines croyances. Aujourd'hui, des sources parlent de femme fontaine. D'autres de glandes de Skene, d'autres de prostate féminine, d'autres de point G. À savoir que ces noms proviennent de mecs cis pour désigner des trucs de meufs bio. À quand notre propre langage? De là où d'ailleurs, le liquide sortirait du même endroit, à peu près, le méa urinaire, contrairement aux liquides lubrifiants qui proviennent du vagin. Il ne contiendrait pas d'urine ou très peu et il sortirait avec l'excitation, pas forcément en même temps que ce truc qui est appelé orgasme. Il pourrait être en grande quantité ou en toute petite, selon on ne sait pas très bien quoi. Je me suis dit, moi, perso, j'ai déjà vu, goûté, senti ça. Et je me suis dit que pour cette lubrique, je pourrais essayer de vous faire écouter ce que ça donne. J'ai pris mon corps comme sujet d'essai. Alors désolé, ça me demande un peu de préparation. Phase 1. Mylène Farmer. Phase 2, plus matériel. Oh, le bruit du café qu'a trouvé la coloc trop stylée de Dark Angel. Qui monte dans la cafetière? Katniss Everdeen, en train de se coiffer, de tresser sa natte contre sa nuque. Oh, une machine à tatouer. Lisbeth Salander qui la met en route. Liz Sherman qui allume sa main en feu pour m'allumer. Une clope. Princesse Mononoke qui galope avec Moro pour aller s'acheter un plug. Le fouet de Xena qui claque. Beau qui aspire le chi de Khaleesi. Hermione d'un coup de baguette qui fait se rencontrer Tanga et Poison Ivy. Kenzie qui pénètre les oreilles de Buffy avec ses talons douces. Un concert de vibrations de vibro de super-héroïne. Ah !
Bon, bah voilà, vous aurez compris notre conseil implicite pour 2016, année de la baise, branlez-vous, hein, n'hésitez pas, seul ou à plusieurs, voilà, vivons ensemble. Alors Olga,
notre... Non, je vais pas enchaîner là-dessus, mais alors pas du tout. Dans cette idée de comment aller bien, comment essayer de se faire du bien dans cette société de merde, on a parlé de méditation, on a parlé un peu du corps, etc. Eh bien, moi, je vais vous dire, moi, alors voilà, on vient de vous donner un conseil pour 2016. Moi, je vais vous en donner un autre, c'est aller voir un psy tout de suite, maintenant.
Non, mais sans tomber dans l'injonction, quoi. L'idée, c'était de parler de ce qui nous faisait du bien,
d'accord.
Quoi.
Non, mais je voulais faire mon petit moment de prosélytisme. Bon, alors, non, mais donc moi, je voulais parler un peu de... Bah, du coup, de mon expérience de la thérapie, qui est justement... Enfin, on n'est pas... Enfin, là, dans l'émission, le but, c'est pas de vous dire il faut être heureux, il faut être joyeux, parce qu'il y a aussi toute une injonction au bonheur qui est assez chiante. Moi, je sors d'une dépression de 2 ans qui est aussi un truc... ça peut être comme une forme d'éveil spirituel ou un truc qui t'amène vers plus de bien-être dans ta vie post-dépression. Donc oui, on s'en sort des fois. Et avec aussi ce... Comment dire ? Le fait de prendre en compte du coup qu'on est un individu en fait, enfin dans nos milieux militants, on est toujours dans le collectif, on parle des oppressions systémiques, etc., machin, mais qui nous font du mal en fait, qui nous font violence tout le temps, et en fait on est des personnes en fait derrière tout ça. Et donc moi voilà, il y a eu un moment, prendre soin de moi, ça a été m'arrêter en fait pendant 2 ans et devenir totalement improductif. Enfin, j'ai strictement rien fait pendant 2 ans.
Et improductif dans le militantisme.
Et bah, je fais de la radio quand même. mais prendre le temps pour moi, voilà, avec aussi bon, l'idée que on a quand même des sacrées névroses, on se traîne des sacrés boulets et des trucs qui, voilà, des traumas, des machins, des trucs. Et qu'au bout d'un moment, bah, c'est aussi pour nous-mêmes arrêter de reproduire plein de schémas de violence, plein de trucs de merde qu'on fait aussi, parce que les méchants, c'est pas toujours la personne en face. Enfin, ouais. C'est nous aussi, quoi.
On intègre les normes, et y compris les normes de haine de soi, quoi. Je suis faible. Si je m'épile, bah, c'est encore que je suis faible, que je n'ai pas de courage politique, parce que les vraies féministes ou les vraies personnes qui font de la politique, eh bien, elles vont assumer le regard des autres en public. C'est toute cette espèce de flagellation qu'on peut se faire soi-même.
On va faire une émission sur les poils parce que vraiment ça a l'air de te tenir à cœur, Céline. Mais c'est aussi vraiment pour dire, enfin, on est facilement dans nos groupes militants. Enfin, moi, l'expérience que j'en ai dans un truc de c'est les autres, les méchants, et se poser en victime assez, ce qui est aussi le cas. Mais bon, il y a un moment donné, il faut aussi se regarder soi-même et essayer de changer soi-même si on veut changer le monde, en fait. Et essayer d'être un peu moins névrosé pour faire un peu moins de merde et pour mieux vivre ensemble et pour arrêter ces cercles de la violence dans lesquels on est depuis longtemps. Mmh. Et alors, bon, très concrètement, si vous voulez des petits... Alors, par contre, le problème quand on veut aller voir un psy, c'est qui aller voir.
Ouais. Comment fait-on ?
Comment on fait ? Alors, surtout, voilà, quand on est féministe, quand on est queer, quand on est je sais pas quoi, Gwyn, qu'on est chelou, qu'on est une licorne à paillettes, eh ben, qui aller voir, en fait ? Alors, il y a sur Internet, on peut vous les mettre aussi sur notre blog et sur notre page Facebook. Il y a depuis quelque temps une liste qui tourne, qui s'appelle PsySafe. Bon, on peut... On n'est pas forcément... moi, je suis pas fan de la safitude, là, mais cette liste, donc, est une liste de praticiens et praticiennes, a priori, féministes, enfin bon... Ou en tout cas, peut-être, il y aura moins de problèmes qu'avec des psys qui sont pas forcément... féministe. Il y a
en
aussi.
Tout cas, elle est la seule à ce qu'on connaisse. Voilà.
Comment ?
Elle est la seule.
Voilà, il y a aussi une association qui s'appelle Psygué. Alors là, c'est pareil. Tout n'est pas à prendre dedans, mais si vous envoyez un mail, vous pouvez demander à voir des personnes féministes. Il y a des gens super qui sont psy et qui font partie de cette association. Voilà, mais du coup, demandez, enfin, envoyez des mails. Moi, je vois régulièrement. Envoyez même nous des mails à nous. Enfin, si vous voulez des numéros, des contacts. Enfin, juste prenez pas le bottin et allez pas forcément voir le premier psy qui passe parce que c'est pas forcément génial, mais...
Nous, c'est langue de fronde, langue au pluriel, @riseup.net. Ouais.
Merci.
Tu parlais aussi de tes amies qui avaient envoyé un mail aux décolonisés parce qu'elle avait des thématiques... Donc les décolonisés, si on peut voir, si tu peux nous dire ce que c'est. Enfin, c'est une association, je crois, ou en tout cas, c'est pour des thématiques particulières, aller voir des associations spécifiques, voilà, pour en envoyant des mails, par exemple.
Ça voilà, juste pour ça sort un petit peu du côté analyse, mais c'était aussi important. Enfin, moi, donc j'ai pas du tout fait d'analyse et j'en ai jamais forcément ressenti le besoin, mais en tout cas j'ai eu besoin de faire des choix assez radicaux à certaines parties de ma vie, et notamment aussi de s'autoriser, alors là c'était plutôt accompagner des proches avec qui c'était vraiment important de faire un vrai arrêt dans, enfin une vraie en tout cas fracture dans ma vie où j'ai vraiment arrêté de travailler. Enfin, j'ai bossé pendant 10 ans et au bout de 10 ans, je me suis dit non, mais là juste je ne peux plus. Enfin, tout ceci n'a pas de sens et voilà. Et je pense que c'était intéressant donc vraiment de s'autoriser à le faire et de se dire bah je ne sais pas ce que je vais faire après, mais c'est pas grave, là il faut que j'arrête. De toute façon, j'ai plus le choix. Et aussi donc ça c'était pas forcément pour moi, mais c'était d'autres personnes à la radio qui se disaient aussi s'autoriser aussi certaines relations qui sont vraiment toxiques. Qui nous font vraiment du mal et qu'on reste parce qu'on se dit qu'on n'a pas le choix, mais en fait, de temps en temps, ça fait vraiment du bien et voilà.
Et ouais, juste par rapport à ça, je suis vraiment complètement d'accord avec ce que tu dis. Après, dans les milieux politiques dans lesquels j'ai traîné, on est toujours dans la position d'être la victime de relations toxiques. C'est pas vrai, on est aussi l'instigateur ou l'instigatrice de plein de trucs de merde. Et c'est aussi en se remettant soi-même en question qu'on va essayer peut-être de faire moins de merde et faire moins de mal autour de nous.
Ouais. Carrément. Oui. Voilà. On fait une petite pause quand même. Allez,
petite pause musicale. Oh, on a prévenu la régie trop tard. Ah bah non.
106.3 dans notre émission Langue de Fronde. Vous venez d'entendre Fatima Al-Kadiri, une Irakienne qui fait de l'électro, et pour le titre Vatican Vibes, juste à noter qu'elle sera en concert à Wet For Me. Je ne sais plus où c'est, mais bon.
C'est à la machine du Moulin Rouge.
Merci, à la machine du Moulin Rouge, dans 2 semaines. Voilà.
Alors, le pouvoir, c'est quelque chose qui peut nous faire du mal, ça peut nous faire du bien aussi. Et Starwalk, une auteure qu'on aime beaucoup ici, écoféministe, qui a écrit Rêver l'obscur, et qui est publié en français aux éditions Cambourakis, parle de deux sortes de pouvoirs. Donc, par exemple, du pouvoir sûr et du pouvoir du dedans. Alors le pouvoir sûr, c'est par exemple ce qu'on effectue sous la menace d'un anéantissement. C'est par exemple si on a ou sous l'effet de la peur. C'est souvent ça peut se manifester dans des gestes quotidiens comme je dois faire, il faut que tous ces trucs qu'on. Par exemple, j'ai un ami qui me dit tout le temps il faut qu'on se voit, il faut qu'on se voit, mais j'ai envie de lui dire mais non, soit on se voit, soit on arrête de se dire il faut que quoi, ou il faut que je paye mes impôts, etc.
On arrête.
Mais après, on peut prendre aussi, genre, je paye mes impôts parce que j'ai envie de participer au collectif, à la communauté, etc. Et ça, quand on a envie de faire quelque chose...
On n'est pas obligé d'être d'accord.
Oui, on n'est pas obligé d'être d'accord. OK. Mais on peut aussi faire des choses parce qu'on a envie de les faire et des choses qui nous rendent vivants. Donc, c'est ce que Starwalk appelle le pouvoir du dedans. C'est le pouvoir du bas, de l'obscur, de la terre, de notre sang, de nos vies et de notre désir passionné pour le corps de l'autre. Par exemple, c'est quand on écrit, quand on fait une activité manuelle, quand on joue au théâtre. Bref, quand ça vient de l'intérieur et qu'on adore ça. Donc moi, tout ce que je peux vous souhaiter pour 2016, c'est d'avoir ce pouvoir du dedans dans le plus d'activités possibles de votre vie et que notre société ressemble à ça, à un vrai pouvoir du dedans, à des pouvoirs du dedans. Voilà, donc après, on peut avoir ce pouvoir du dedans ensemble, autour de projets collectifs, autour de militantisme.
Et oui. Donc
et toi, Théo, par exemple, tu as une expérience de militantisme.
Non, mais enfin, c'était pas tellement l'expérience en elle-même que le fait que on a beaucoup parlé de ce qui nous fait du bien pour le corps. On a aussi beaucoup parlé du fait que c'était important aussi de. Enfin, ça avait vraiment un sens de pouvoir faire une analyse. Après aussi, enfin, c'est bien de se faire du bien, etc. Après, ça ne va pas résoudre aussi les grandes questions intérieures qui nous traversent. Et une des façons aussi de le... Enfin, même si ça peut nous faire du mal par ailleurs, une des façons aussi de les résoudre, c'est justement le militantisme à travers lequel on va produire du sens dans nos vies. Donc, pour moi, c'était vraiment important, ouais. Et c'est aussi pour ça
et
qu'on
coup,
est là.
C'est être soi dans un collectif. C'est-à-dire, on n'oppose pas le soi et le collectif, mais du coup, on prend une place dans un collectif qui est tout le temps dynamique et qu'on peut influer, quoi. C'est un peu cette idée-là,
oui,
ou pas?
Ouais, c'est exactement ça, ouais. C'est vraiment de militer avec et de faire avec d'autres. Ça nous permet de résoudre des problèmes auxquels on est confronté tous les jours et... Et voilà, et que voilà, c'est même si ça c'est douloureux et c'est pas facile, faites quand même du militantisme.
C'est vrai que parfois
faites comme vous voulez.
Faites comme vous voulez.
Il peut
ouais.
y avoir des. Enfin moi je pense à des moments notamment en manif où parfois ça me fait chier d'aller en manif, je me dis à quoi ça sert. Et... Mais en même temps, il est arrivé qu'il y ait une sensation aussi de jouissance à crier à plusieurs, voire à chanter, à se lâcher. Enfin vraiment quelque chose de l'ordre du collectif ou. Ou alors on y croit, on n'y croit pas, peu importe, mais on est là avec plusieurs personnes.
Et ça a quand même du sens.
Et oui, et on sait que ça a du sens. Et en plus, c'est aussi, moi, je trouve une façon d'être bien avec soi-même et avec les autres. Il y a eu que ce soit des petites manifs parfois. Enfin, quand on pense aux marches de nuit non mixtes, c'est-à-dire à la façon dont on peut prendre la rue la nuit. Alors à Paris, souvent c'est 2 fois par an, quelque chose comme ça. Il y a une forme de jouissance collective dans cette action.
Il y a combien de personnes à peu près? Donc du coup, c'est
moi celle que j'ai faite, on était je sais pas 200, quelque chose comme ça.
Ouais. Bah 200, on peut faire une sacrée énergie à 200.
Et voilà, c'est ça. Alors il y a les manifs à 40 000 personnes et les manifs à 200 et parfois celles de 200 peuvent nous faire plus de bien que celles de 40 000. Mmh. Parfois on n'y va pas, on y retourne 2 ans plus tard et on sait pourquoi on y retourne. Mais en tout cas, oui, il y a une vraie un vrai sens à tout ça.
Mmh. Moi, j'ai l'impression d'être la voix un peu éventuellement rabat-joie là-dedans, c'est-à-dire que ça, ce serait, en théorie, ce serait super que ce soit comme ça et qu'on se fasse du bien aussi
Après, de fait, il y a énormément de recréations de normes et d'interdits dans les milieux militants, notamment les milieux féministes, les milieux TPG, les milieux queer, etc.
TPG veut dire transpédéguine.
Transpédéguine. Du coup, je sais pas, Théo, tu voulais nous lire un petit texte ?
Non, on fera ça un petit peu plus tard. On avait d'autres choses qu'on voulait...
Ah, pardon.
Dont on voulait parler avant, parce que... On était donc, enfin voilà, on voulait élargir aussi le côté projet collectif, donc le militantisme. Enfin, c'est vrai qu'il y a un certain intérêt. Donc c'est pas, on n'entend pas ça par faire que des manifs. Hein. Il y a aussi tout un, il y a et une production d'idées et aussi concrètement. Enfin, pour moi, toute ma pratique, par exemple, de jardinage ou de maraîchage, ça peut être aussi un projet militant de changement de ma vie et de la vie des autres qui sont avec moi dans ce projet-là.
Et là, c'est en plus en lien avec la terre, quoi.
Ouais.
Avec des choses non vives. Enfin. Dites non vivantes, quoi.
Mais il y a aussi d'autres projets collectifs. Enfin, il y a aussi se sentir vivante ensemble, c'est non seulement faire du militantisme avec d'autres personnes, mais c'est aussi faire des projets qui peuvent être pas forcément toujours hyper politisés. Et par exemple, et on a autour de cette table une personne qui fait un atelier d'écriture de science-fiction féministe.
Bonjour, Alka.
Je ne vois pas de qui vous parlez.
Voilà.
Non, mais oui, enfin après, moi, je pense que ça a une visée politique très grande et révolutionnaire, hein, faire un atelier d'écriture de science-fiction féministe, et tout un tas d'autres projets collectifs, mais qui sont moins dans la militance pour moi. En tout cas, c'est le rythme dont j'ai besoin en ce moment. Et donc, mais voilà, tout un tas de petites choses. Enfin, s'amuser, voilà, à écrire ensemble, à faire des dessins ensemble, à faire des rituels ensemble, à faire plein de choses de cet ordre-là ensemble, qui sont moins dans les codes traditionnels de la militance. Moi, personnellement, c'est des codes qui ne marchent plus pour moi. Et j'aimerais recréer de la politique autrement, en fait, aussi.
Ouais, plus spirituel aussi. Enfin, en investissant aussi le champ du spirituel, parce que les rituels, c'est spirituel, et en investissant aussi le langage non-verbal.
Oui, il y a aussi, donc, dans les projets collectifs, je mentionnais l'atelier d'écriture, et il y avait aussi une super expérience de musique qu'on va faire, dont on va parler rapidement.
Mais l'idée, c'était que faire des ateliers d'écriture ensemble, mais aussi, par exemple, faire de la musique, c'était, bah, comme tu disais, Céline, pour le coup, un langage non-verbal, mais qui, pour moi, crée vraiment un collectif de ouf et des sensations vraiment très fortes.
T'en as fait où, toi ?
C'était il y a longtemps, mais cette idée-là que aussi tout le monde peut y avoir accès, enfin, on a tous et toutes une voix en nous, par exemple, enfin, on peut chanter, enfin, je ne suis pas la pro de ça, mais voilà. Et est-ce qu'on finit par ce petit texte ?
Oui.
Alors, ce petit texte de Corinne Monnet et Léo Thiers-Vidal dans « Au-delà du personnel », plus précisément, c'est l'auteur Lola qui parle là dans ce recueil de la haine et la honte de soi. Le jour où je me suis surprise à renoncer à un t-shirt trop court pour aller à une réunion politique, j'ai su que, bravo, j'avais intégré le mépris sous-jacent dans toutes les conversations fanzines qui traînent. C'est moi qui ai peur de moi. Je veux être écoutée en robe si ça me chante, avec un porte-jartel si j'ai envie. Je veux avoir la liberté d'afficher une bouche rouge ou des ongles noirs, ou pas. Je ne suis pas étiquetable, même sous un label politiquement correct, et je veux tout mélanger. Je suis une fille en treillis et en rouge à lèvres, en jupe et en veste de survette, en culotte, en dentelle ou sans. Je sais être violente face aux anti-IVG, et je pleure parfois pour des conneries. Je veux pouvoir avoir l'air d'un cliché de séduction et fracasser la tête de ceux qui tombent dedans avec leurs idées racornies. Je ne laisserai à aucun grand tribunal, fût-il anard, le droit de dire que je ne suis qu'une apparence. Je déplore qu'on vienne nous diviser une fois de plus entre les bonnes et les mauvaises filles, Koukaï et Persing. D'autant plus que ça y est, Koukaï en vend des faux.
Bisous, bisous, nous on va s'acheter juste... plein de paillettes.
Ouais, restez quand même avec nous, avec l'écho de la Palestine qui est juste après. Et puis, certainement, la prochaine émission sera sur logement dans un mois. Voilà, bisous, bisous.
Au revoir.
Bonne année 2016.